Aujourd'hui, on trouve un nouvel épisode avec Abraham. Donc Abraham a eu son fils Isaac. Ils ont 100 ans d'écart. Je ne sais pas si vous mesurez le problème. Comment est-ce qu'un fils va pouvoir vivre avec un père qui a 100 ans de plus que lui? C'est intéressant comme question. Hein, bon, sans parler de sa mère qui doit en avoir 90. Bon. Donc déjà, ça c'est quand même un premier problème. Qui n'est pas le sujet de la lecture, mais ça nous permet de mesurer un peu mieux le récit biblique et de voir qu'il y a là une signification, notamment la place du temps dans nos vies, la promesse là où elle est, peut plus être attendue, la réalisation de la promesse. Il y a beaucoup de sous-thèmes, vous voyez, qui peuvent être illustrés. Hein. Alors, ensuite, ce qui traverse, je crois, ce passage, c'est le thème de la chasse. Se faire chasser. Va-t'en. Partir. Et c'est intéressant parce qu'au fond, Abraham, Dieu lui a dit de quitter sa terre. Et c'est ce qui arrive à Agar et à son petit garçon, Ismaël. C'est comme si le fait... Je ne sais pas comment dire ça. Quand Dieu arrive quelque part, il faut partir, quoi. Et si vous regardez la vie de Jésus, la vie de la Vierge Marie, Jésus est à peine né qu'il faut partir. Il passe son temps à partir, à être chassé. C'est assez impressionnant. Et puis dans la lecture, on a ce passage curieux. Donc Agar pleure et Dieu entend la voix du petit enfant. C'est drôle. Ça signifie que la voix de l'enfant et la voix de la mère, c'est indissociable. Du moins, ça devrait l'être. Et Dieu intervient encore une fois, comme je l'avais dit il y a quelques jours. C'est au moment où les choses sont dans un sale état que Dieu intervient. Je me souviens du père Paul Wicks, qui fut père abbé de Timaduc, qui un jour avait fait remarquer que Dieu intervient souvent au dernier moment, puis après un silence, il avait dit, et même souvent après le dernier moment. Donc voilà, cette notion du temps, je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Puis je voudrais finir ces trois mots sur cette lecture là pour évoquer le cas de l'islam. Donc vous savez que l'islam, Mohammed prétend que il est de la descendance d'Abraham. Donc je dis prétend hein, parce que la thèse qui a été faite sur les recherches qui ont été faites sur l'idée d'une descendance. C'est absolument infondé et totalement inventé par Mahomet. Aucun arabe avant l'islam, donc le 7e siècle, début du 7e siècle, aucun arabe ne s'est jamais prétendu demander s'il y avait un lien quelconque avec Abraham. Et la généalogie est absolument infaisable. Les musulmans ne sont pas fils d'Abraham. Pas plus que nous, sauf que nous ne prétendons pas l'être charnellement, mais nous le sommes spirituellement. Alors vous remarquerez du reste que dans le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 16, ne dit pas que les musulmans sont fils d'Abraham, mais le texte latin dit « ils professent être fils d'Abraham ». Ça ne veut pas dire qu'on l'ait reconnu, et pour cause, puisque ce n'est pas vrai. Bon, je dis ça pour démystifier tout un tas de choses et surtout éviter les amalgames qui sont légions parce que beaucoup de chrétiens, de catholiques très très bienveillants pensent que la Bible nous parle de l'islam. Et le problème, c'est que c'est même pas vrai en islam, puisque pour les musulmans, la Bible est corrompue, falsifiée par les chrétiens et par les juifs. Donc, j'allais presque dire, c'est là où on est d'accord, c'est qu'il y a un problème. Bon, je referme cette parenthèse, mais je voulais quand même le dire parce que vous pouvez être très, très au contact de ces choses-là. Il faut quand même savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un prétend quelque chose que c'est avéré. Oui. Donc, si ça vous intéresse, la thèse du père René Dagorn, je ne sais plus quelle collection, parce que je n'ai pas le livre ici sous la main, qui fait une recherche sur tout ce qu'on a pu trouver avant l'islam, et qui aboutit au fait que bah, y a rien. Quoi. Alors, nous en venons donc à l'évangile de Matthieu. Vous remarquerez que dans cet évangile, il y a deux possédés. Et vous vous dites peut-être, tiens, c'est marrant, la dernière fois que je l'ai lu, il n'y en avait qu'un. Ben, en fait, non, c'est en Marc. En Marc, il y en a un seul. Il n'y en a pas deux. Et en Marc, c'est beaucoup plus prolixe. Alors, c'est très étonnant, parce qu'en général, Marc est le condensé de Matthieu, dit-on. Et là, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est très curieux. Alors, bon, le texte est assez banal, mais il faut regarder de plus près. D'abord, les démons arrivent quand il y a Jésus. C'est intéressant de voir que parce que Jésus arrive, les démons se pointent. Franchement, ça nous parle de nos vies personnelles. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des ennuis. Mais rien, t'es juste avec le bon Dieu, donc les démons se pointent. Pourquoi les démons ne se pointent pas quand on est étranger à l'Église, à Jésus, au Christ, à la résurrection? Bah parce qu'il n'y a pas besoin de combattre, le terrain est déjà gagné. Pourquoi les démons se pointent quand Jésus vient? Bah parce qu'il y a un risque de perdre du terrain, quoi. C'est assez simple. Et donc ça, il faut bien en prendre conscience dans nos vies. Les démons sont présents dans nos vies. On les voit pas, on les sent pas, et alors? Donc, il faut apprendre à discerner ça. Vous savez, les coups de fatigue subis, tout à coup, vous êtes pris par une fatigue, oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Essayez de renoncer à l'esprit de fatigue dans le nom de Jésus, juste pour voir ce que ça fait. Je vous parie que 2 heures après, vous n'avez plus votre fatigue, et vous vous direz, tiens, mais c'est curieux, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, t'as renoncé à l'esprit de fatigue. T'as chassé le démon de la fatigue qui était venu s'appuyer sur tes épaules. On a, dans la littérature monastique, on raconte qu'au cœur, on voit les démons. Il y en a un qui tire sur la langue d'un moine, l'autre qui lui ferme les yeux, le troisième qui le fait bâiller, le quatrième. Il y a des choses assez drôles là-dessus dans la littérature monastique. Bon, alors, tout le monde se marre. Ah oui, c'est moyenâgeux, comme on dit aujourd'hui. Alors qu'au Moyen-Âge, on avait autrement la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Il représentait une réalité. C'est que les démons viennent combattre la prière, et pas que des moines. Voilà, donc ça, c'est important qu'on ait ça à l'esprit. Et ces démons se pointent, donc. Et alors, si vous prenez le parallèle avec Marc 5, vous découvrez que Jésus demande « Comment t'appelles-tu ? » Il n'y a qu'un possédé, mais il y a du monde chez lui. Et il répond « Légion ». Est-ce que vous savez combien, j'ai déjà dit une fois ou l'autre, hein, mais c'est pas grave, est-ce que vous savez combien il y a de soldats dans une légion romaine ? 3000. Donc le bonhomme, il héberge 3000 démons. Ça calme hein, quand même. Alors que nous, on en héberge quelques-uns. Vous savez, ces petits démons qui sont rentrés parce qu'un jour, on nous a humiliés et on a été blessés. Et du coup, dès qu'il y a un truc, j'en réactive. On a été maltraités, on a été insultés, on a été laissés pour compte. On se croit rejetés. Enfin, tout ça, c'est des petits démons. Hein, ça relève du... Du ministère de la délivrance, les évêques ont produit un document tout récemment sur le ministère de la délivrance. Car vous savez peut-être que beaucoup de gens vont malheureusement voir des magnétiseurs, des guérisseurs, des cartomanciennes, un horoscope, un machin. Tout ce qui permet aux démons de rentrer chez nous. Aux démons avec un X à O et un S à démon. Et ensuite, ben, ils sont chez eux, donc ils mettent le foutoir. Voilà. Et donc ces prières de délivrance visent non seulement à délivrer les gens de démons qui ont profité pour rentrer, qui sont peut-être pas des démons hyper impressionnants, mais qui nous pourrissent la vie. Et puis pour mettre en valeur aussi la prière dans le nom de Jésus, toujours, qui guérit. Et donc c'est intéressant de voir que ces démons supplient. Vous remarquerez qu'il y a deux types de personnes qui supplient dans l'évangile. Il y a les démons et puis les gens. C'est vachement curieux quand même. Hein. Les démons supplient de ne pas être expulsés trop loin. Et les gens supplient Jésus de ficher le camp. C'est impressionnant quand même. Hein. Les démons ont peur de Jésus et les gens ont peur de perdre tout ce qu'ils ont. C'est y a de quoi nous faire réfléchir. Hein. C'est deux supplications. Donc en fait, le terme de cet évangile, c'est chasser, partir. C'est amusant parce que c'est exactement la même ce qui est arrivé à Agar, en fait. Jésus est chassé, les démons sont chassés. Et alors que ce texte nous parle de l'autorité de Jésus, eh bien, on n'en veut pas, quoi. En fait, on préférait que les deux types y soient possédés, mais que les porcs, ça se passe bien. Parce que là, on ne nous dit pas combien il y en a. Vous voyez, c'est très étonnant. Moi, je reste très étonné. On dirait que c'est le récit de Marc, ça, tellement il est condensé. Et en fait, le récit de Marc, donc, il y avait... Il nous dit combien il y avait de porcs, je crois. Il y avait un troupeau de porcs, environ 2000. Bon, bah, les gens, voilà quoi, c'est terminé. Hein. Jésus vient déranger, le salut vient déranger notre petite écologie personnelle. Donc, non. Vous voyez, c'est un peu comme le thème de l'immigration. Bon, on sait que le pape François en avait beaucoup insisté là-dessus, et les gens trouvent que, ben oui, mais non, c'est mon pays, bon. J'ai rien à dire là-dessus, je ne suis pas compétent et j'ai clairement pas d'autorité. Je vous dis juste qu'au ciel, il n'y a pas de place pour les Français. Il n'y a pas une place au paradis pour les Français, puis pour les Anglais, puis pour les Irakiens, puis pour les Arabes et les Américains, il n'y a pas de nationalité au ciel. Donc si il s'agit de commencer à vivre sur terre comme au ciel, il y a peut-être des choses à déduire. Et donc là, nous sommes dans... En tout cas, je finis ça sur cette supplication de partir. Va-t'en, 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 va-t'en. Ça peut peut-être habiter quelque chose chez nous, faire écho à quelque chose chez nous, et nous pouvons peut-être demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux dire. Pourquoi on t'a chassé? Est-ce que moi je te chasse aussi? Ça peut être une réflexion de la journée, voyez. Et puis reprendre ça à midi et de se dire tiens, combien de fois j'ai chassé le Seigneur? Les pensées, les invitations, les actes de charité, toutes les omissions qu'on aurait pu faire. Voilà, je vous laisse avec ça, et puis ben, à la prochaine fois.